Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Jeudi 19 mars, le journal de la mi-journée présenté par Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Le préavis de grève a bien été déposé à la CPS. Les syndicats demandent le respect du dernier protocole signé à la hâte il y a 10 jours à la veille de la venue de la ministre des Outre-mer. La première réunion de conciliation organisée ce matin s'est soldée par un échec au bout d'à peine un quart d'heure. La solidarité s'organise en Polynésie pour venir en aide aux sinistrés du Vanuatu après le passage du cyclone Pam. Il y a une demi-heure à peine, le président Fritsch est arrivé à la flottille administrative pour constater l'état des chargements de matériel qui seront envoyés chez nos voisins du Pacifique. L'association Totiare, en partenariat avec Radio 1, se mobilise pour lancer une collecte de dons qui seront destinés à la reconstruction des écoles au Vanuatu. Plus de précisions sur cette opération dans ce journal. Enfin, nous parlerons écologie, alter économie et alter solution. Tout simplement, ce midi, j'ai le plaisir de recevoir le co-organisateur de la 4e édition de l'Envers du Monde, François Polpon, dans ce journal. La semaine prochaine se tiendra la 4e édition de ce cycle de projections et débats à l'ICEP. A tout de suite.
Et on démarre avec le nouveau préavis de grève déposé à la CPS.
La tension remonte à la caisse de prévoyance sociale. 4 des 5 centrales syndicales CSTPFO, CSIP, Otei et Otoerima ont signé et déposé hier un nouveau préavis de grève à la caisse de prévoyance sociale. Ceci 10 jours à peine après les négociations du dernier protocole d'accord entre les syndicats et la direction de la CPS. Et justement, les syndicats dénoncent aujourd'hui le non-respect des engagements pris lors de cette réunion. Ils demandent toujours la restructuration de la direction générale de la CPS. Une question qui doit être abordée demain en conseil d'administration. Très concrètement, les syndicats demandent le départ du directeur de la caisse, Régis Chang. Ce matin, une première réunion de conciliation devait avoir lieu entre les syndicats et le futur ministre de la Santé, Patrick Howell. Mais les partenaires sociaux ont claqué la porte après seulement un quart d'heure de réunion. Sans accord entre les deux parties, la grève sera effective à partir de mardi prochain.
En politique à présent, l'organisation Reporters sans frontières s'inquiète pour le journalisme en Polynésie.
L'ONG Reporters sans frontières a adressé ce matin une lettre ouverte au président Édouard Fritsch pour lui faire part de ses inquiétudes sur la situation de la liberté de la presse en Polynésie française. L'organisation dénonce les pressions financières auxquelles font face les journaux et les difficultés rencontrées par certains journalistes dans le cadre de leur travail depuis 2013. RSF revient sur la disparition des nouvelles de Tahiti et demande au président du pays, je cite, de tout faire pour maintenir un journalisme libre et indépendant en Polynésie. Mais surtout, l'organisation reproche à l'actuel président du pays ses déclarations il y a 2 mois lors de ses vœux à la presse. Reporters sans frontières dit son étonnement d'avoir entendu Édouard Fritsch, je cite, employer les termes de respect et de loyauté pour définir ses relations avec la presse. En conclusion, le communiqué demande à Édouard Fritsch de reconsidérer ses propos et de prendre en considération à l'avenir leur impact négatif pour la liberté de la presse.
Sur un tout autre registre, on revient sur le cyclone au Vanuatu et l'association Totiare qui lance une collecte de dons.
Souvenez-vous, Totiare, c'est l'association à l'origine du concert caritatif des Tamari Hauti le mois dernier à Toata. Totiare qui lance en partenariat avec Radio 1 une collecte de dons pour les sinistrés du cyclone Pam au Vanuatu. Les fonds récoltés seront reversés à la fondation Ratua au Vanuatu qui œuvre pour l'éducation des jeunes et entend participer à la reconstruction des écoles après le passage du cyclone Pam. L'opération se nomme Solidarité Tahiti Vanuatu. Elle va s'étaler sur 1 mois. Écoutez le président de l'association Totiare, Taimana Elakot, qui nous parle de cette opération Solidarité Tahiti Vanuatu.
L'événement s'appelle Solidarité Tahiti Vanuatu. Les membres de Totiare ont été très touchés par ce qui s'est passé chez nos cousins Vanuatu. Donc on organise une levée de fonds. Pourquoi les fonds? Parce que c'est plus simple à envoyer tout simplement que du matériel et que le pays s'en charge déjà. Donc nous on veut faire une levée de fonds, on veut qu'elle soit ciblée sur des constructions d'écoles. Donc c'est pour ça qu'on a pris contact avec une fondation qui s'appelle la fondation Ratua, qui s'occupe habituellement d'éducation. Et là, ils vont essayer justement de reconstruire les écoles qui ont été détruites. Ça peut être 500 francs, 1000 francs, 2000 francs. Ça peut aller jusqu'à 100 000 francs. Mais l'idée, c'est que les petites rivières font les grands fleuves et qu'à la fin, on ait une somme conséquente qu'on puisse envoyer au Vanuatu et que ça puisse les aider.
Pour apporter votre contribution à cette opération, vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l'ordre de Solidarité Tahiti Vanuatu à l'adresse BP 21304 à Papeete ou par virement bancaire sur un compte sécurisé à la Socredo. Les références de ce compte et toutes les informations sur cette opération, vous pouvez les retrouver sur notre site radio1.pf, sur la page Facebook ouverte pour l'occasion sous le nom Solidarité Tahiti Vanuatu, on l'a entendu, et enfin sur le site de la Fondation Ratua au Vanuatu.
Une pause dans ce journal à midi 6, courte pause, on revient avec notre invité et la page sport bien évidemment. Retour au journal Antoine et on reprend avec notre invité pour parler de la quatrième édition de l'Envers du Monde.
Voilà, vous venez de l'entendre pendant la pause, la semaine prochaine du 23 au 27 mars, l'ICEP accueille 5 journées de projection de documentaires suivies de débats autour de thèmes aussi variés que la pollution cachée d'Internet, la guerre des brevets ou encore la question de l'accélération du temps dans notre monde. C'est justement l'envers du monde que nous propose pour la quatrième année consécutive François-Paul Pont, co-organisateur de l'événement. François, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou réexpliquer, puisqu'on le disait, ça fait quand même 4 ans que l'envers du monde existe, le concept de ce rendez-vous de projection et de débat?
Le concept est inchangé, c'est 5 films, 5 thèmes, 5 thématiques et 5 débats. L'idée étant de présenter les problématiques mondiales, les grandes problématiques mondiales, à condition toutefois qu'elles aient aussi un sens en Polynésie, qu'elles aient une résonance. Je prends un exemple, un des problèmes mondiaux, c'est l'achat de terres en Afrique par l'Inde, la Chine, le Qatar. Mais ce problème ne se pose pas en Polynésie, donc c'est un sujet qu'on n'aborderait pas. Donc c'est 5 films, 5 débats, 5 thèmes, 5 débats et une gratuité complète.
D'accord, alors rappelons justement l'organisation. Chaque soir de la semaine prochaine, ça commence à 18h, c'est à l'ICEP, donc quartier de la Mission. On commence par donc une projection de documentaire, puis ensuite il y a un débat avec un invité et les personnes qui ont assisté à la projection.
C'est ça, il y a les 5 films, sur les 5 films de cette année, il y en a 4 qui font 52 minutes, 52-55, et il y en a un qui est un peu plus long, et ensuite il y a un débat, c'est un petit peu la différence par rapport au FIFO, par exemple, que j'aime beaucoup, et dans lequel j'ai été membre du comité de présélection pendant 3 ans, c'est que il y a un débat qui est animé par un journaliste professionnel de la place, l'idée étant que les films ont des angles, c'est des films qui sont pas de l'eau tiède, ils prennent des positions fortes avec lesquelles on peut être d'accord et pas d'accord. C'est pour ça que c'est nécessaire de les enrichir et de les éclairer par un débat où on peut donner la parole à des gens qui ne suivent pas forcément les propos du film ou les positions du film.
Alors ces films, justement, est-ce qu'on peut en parler? On va prendre dans l'ordre, hein, en commençant par celui de lundi soir. Internet, la pollution cachée, qu'est-ce que vous allez nous proposer?
Alors là, ça a été une découverte, y compris pour moi. Internet est incontournable, Internet est partout et sera de plus en plus partout dans les années à venir avec l'Internet des objets. Internet a aussi un impact environnemental dont on n'a pas forcément conscience. Internet manie des quantités considérables de données. Et ces données, elles sont stockées où? Elles sont stockées dans des data centers, ce qu'on appelle les data centers, c'est-à-dire des immenses collections d'ordinateurs pour mettre en mémoire toutes ces données qui transitent tous les ans. Et ces data centers ont deux défauts. Le premier, ils consomment énormément d'énergie, mais vraiment beaucoup, beaucoup, l'équivalent d'une ville moyenne. Et et aussi ils chauffent. Mais ils chauffent beaucoup. Donc
ils rejettent du CO2, on imagine.
Oui. Et l'autre défaut, c'est que c'est extrêmement fragile dans l'organisation du système de l'information mondiale. C'est d'avoir ces gros centres. Si des gens mal intentionnés font sauter ou hack un de ces data centers, ils tombent sur des milliards et des milliards de données. Et donc c'est assez fragile. Donc le documentaire parle de ça. Et les gens qui vont intervenir sur ce sujet amèneront un éclairage particulier, et je disais tout à l'heure, il fallait que la problématique se pose aussi en Polynésie. Il se trouve qu'il y a un data center à Papeno.
Effectivement, c'est le cas. Le lendemain, on va passer sur un autre sujet qui, évidemment, trouve un écho en Polynésie, c'est l'alerte au mercure.
Oui, alors ça, c'est un souci que j'ai depuis un certain temps, c'est de réfléchir et de chercher tout ce que l'on consomme chaque jour, qui est nocif pour la santé, sans qu'on s'en rende compte. Alors, l'année dernière, on avait parlé de l'aluminium, qui est absolument partout, y compris dans des vaccins. Et cette année, c'est le mercure, c'est pareil, il y en a à peu près partout. Mais il y a 3 problèmes majeurs avec le mercure, c'est sa présence dans un certain nombre de produits de la consommation courante, des shampoings, des vaccins, des produits de beauté. En dentisterie, tous les alliages, quoi, les alliages contiennent du mercure. Et le troisième danger, c'est une étude récente de l'Université du Michigan, à Hawaï qui a constaté une accumulation de mercure dans la chair des thons à Hawaï. Et le mercure a cette particularité, c'est qu'il ne s'en va jamais du corps. Parce que si on commence à ingérer du mercure à 14 ans, à 60 ans, on a énormément de mercure. Enfin, on a beaucoup, trop de mercure dans le corps, avec des risques d'Alzheimer et d'autres maladies, Parkinson.
Et c'est une problématique qui nous concerne évidemment très directement dans le Pacifique. Le troisième jour, on en parlait, donc ça c'est mercredi, on en parlait juste avant de prendre l'antenne. La guerre des brevets, qu'est-ce que c'est exactement que vous allez nous proposer?
Alors là aussi, c'est une découverte, c'est un enjeu économique majeur. Les brevets étaient inventés et créés pour protéger les inventeurs. Et on constate aujourd'hui qu'il y a une dérive marchande sur les brevets, que en 1980, le Japon émergé sur le marché mondial avec des chapelets d'innovation, et ces chapelets d'innovation ont porté tort à l'économie américaine. Donc les Américains ont assoupli la législation sur les brevets, ce qui fait qu'aujourd'hui des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques et autres peuvent breveter du vivant, c'est-à-dire qu'on peut breveter une molécule du vivant. Et là aussi ça concerne directement la Polynésie, parce qu'avec son espace maritime immense et ses plantes sur Terre, elle a un capital de molécules ou de principes actifs qui est important et qu'il faut protéger. Il faut éviter qu'une multinationale vienne piquer une molécule ou un principe actif, mette un brevet à l'exclusivité et qu'après elle fasse payer à la Polynésie des produits ou des choses qui ont été découvertes sur son sol.
Un autre sujet qui concerne évidemment le Fénois, c'est la nature, ce nouvel Eldorado de la finance. C'est le programme de jeudi.
Alors là, pour moi, c'est un gros coup de cœur et une stupeur, je peux employer le terme. C'est la finance internationale et tous les acteurs spéculatifs de la finance internationale ont découvert un nouveau gisement de richesse. En 2007-2008, ils avaient découvert que les pauvres, ils avaient par définition peu d'argent, mais ils étaient très nombreux. Donc un peu d'argent, mais auprès de beaucoup de gens, ça fait beaucoup d'argent. Et c'est ce qui a abouti à la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'on a prêté de l'argent à des pauvres pour gagner encore plus d'argent. Cette crise étant passée, ils ont trouvé un nouveau gisement de richesse qui est la nature. Ils se sont rendus compte que des espèces étaient en menacées de disparition, que des terres ou des territoires étaient menacés de disparition, des forêts primaires, des zones humides, des choses comme ça. Et on assiste aujourd'hui à des investissements spéculatifs. Ils achètent des terrains, ils achètent des zones humides, ils achètent des forêts. Ils ont fait chiffrer le coût ou la valeur de la Grande Barrière de Corail.
Exactement, on l'a acheté à $600,000 par kilomètre carré.
Oui. Ou 240 milliards de dollars pour la forêt amazonienne.
Exactement.
Et donc, ils achètent et après, ils spéculent avec. Si, par exemple, ils achètent une espèce de lion en voie de disparition, si un milliardaire américain veut aller tuer un lion, ils vont lui vendre, mais très cher, la possibilité de tuer un lion. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et évidemment, sur la Polynésie, dont la nature est un des grands atouts touristique, il y a une menace un peu au courant de cette nouvelle dérive de la finance spéculative sur la nature. Moi, je trouve ça catastrophique.
Dernière conférence, ce sera l'urgence de ralentir le temps dans notre monde.
Alors ça, c'est le film qui me tient le plus à cœur dans cette sélection des cinq. C'est un problème vraiment mondial qui n'a pas directement d'enjeu économique. C'est l'idée que avec le numérique, avec l'informatique qui s'est répandue partout, qui occupe tous les domaines de notre existence, la contrepartie de ça, c'est que tout va très vite. On se met en ordre de marche à la vitesse de l'informatique et du coup on n'a plus le temps de réfléchir. On est toujours dans l'action. Le nombre de gens qui disent j'ai pas le temps de tout faire, il faudrait que mes journées fassent 48 heures, etc., etc. On vit tous à 100 à l'heure ou à 150 à l'heure et on n'a plus le temps de réfléchir à qui je suis, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment va le monde, etc. Donc ce film est un double mérite à mes yeux. Il amène à réfléchir sur cette problématique. Il est urgent de ralentir. Il faut résister à cette aspiration du temps et de la vitesse. Et deuxièmement, imaginer d'autres façons, des formes alternatives par rapport à cette civilisation de la vitesse. D'où le fait que pour le débat, j'ai invité un psychiatre, un philosophe et un spécialiste des accidents du travail. Parce qu'il y a quelque chose qui se développe beaucoup partout dans le monde, c'est le stress du travail, le burn-out, le fait que les gens n'arrivent plus à suivre.
Eh bien, merci justement François Volpon d'avoir pris le temps de venir nous expliquer, nous présenter ces conférences. On rappelle que c'est gratuit, c'est la semaine prochaine, donc chaque soir à 18h à l'ICEP, projection puis débat, c'est l'envers du monde pour la quatrième année consécutive. Donc.
Merci. En bref, une bonne nouvelle avec l'épidémie de chikungunya qui est maintenant officiellement terminée en Polynésie.
L'épidémie qui a touché l'ensemble des archipels de la Polynésie française depuis le mois d'octobre 2014 est désormais derrière nous. Depuis 3 semaines, le nombre de nouveaux malades a franchi le seuil des 5 pour 10 000 par semaine. C'est ce critère qui est admis comme seuil de fin d'épidémie. Attention, le virus reste toutefois toujours présent, notamment aux îles Marquises et aux Australes. Il est toujours conseillé de se protéger des moustiques, notamment pour éviter un retour d'autres épidémies comme la dengue. Sachez également qu'après la phase initiale de la maladie, de nombreux malades connaissent une persistance ou une réapparition de symptômes douloureux. Alors ce phénomène est connu et survient chez la moitié des personnes atteintes. En cas de survenue de douleur accompagnée de nouveau de fièvre, les personnes ne doivent pas hésiter à consulter leur médecin, les professionnels de santé qui sont parfaitement sensibilisés à cette phase post-épidémique.
Midi presque 19, on passe au sport.
Premier sur le sport. Avec sportaiti.com.
On commence cette rubrique sportive avec de l'athlétisme. On retrouve pour cela Tamatoa Tefo.
Bonjour à tous, on commence avec de l'athlétisme. Le Challenge Olympian Sport s'est déroulé samedi dernier au Stade Pater. De belles performances ont été notées chez les concurrents. En saut à la pêche, Lucie Tepea Daorei réalise les minima E avec 2m80. Sur le 5000 mètres, Elodie Mievel de Pounard où l'emporte avec un chrono de 19 minutes et 21 secondes et Sophie Bouchonnet de Central Sport arrive juste après avec un temps de 19 minutes et 47 secondes. Elles réalisent toutes les deux les minima E pour les Jeux du Pacifique. Chez les minimes, Teura Tupaya Daore, qui n'avait pas lancé le disque depuis longtemps, affiche 43,78 m, ce qui le place dans le top national de cette discipline.
Et on passe maintenant à la natation avec les résultats de la Coupe Diane Lacombe en Polynésie.
Dans la catégorie Benjamin, sans grande surprise, les Nani Geriwangfu de l'Olympique de Piré et Tauru Nohuari du club de Imua remportent tous deux la course. Chez les grands, la société de Imua, Émile Allemand, a une fois de plus battu un record de Polynésie sur le 50 mètres papillon en 29 secondes et 40 centièmes et remporte par la même occasion le challenge chez les dames. Du côté des garçons, Anthony Clark du CNP s'impose sans trop de difficultés.
Et on termine par du jiu-jitsu brésilien avec la présence d'une star de la discipline au Fénois.
Exactement, une trentaine d'aficionados de jiu-jitsu brésilien ont participé hier soir dans la salle d'Extreme Gym à un séminaire mené par Guto Campos, un champion international en ceinture noire qui possède un palmarès impressionnant. Il a été champion d'Europe en 2010 et champion du Panamérica en 2008, 2013, 2014 et 2015. C'était un honneur pour les adeptes locaux de s'être entraîné avec un athlète de cet acabit.